franceinter.fr.
Aujourd'hui, Affaires Sensibles vous propose de réécouter l'histoire d'une traversée, celle de la Méditerranée, et d'une décennie où une petite île italienne, à moins de 200 km de la Tunisie, est devenue le théâtre des paradoxes d'une Europe globalisée, indifférente au malheur de ses voisins de l'autre rive. Lampedusa, c'est le nom de cette île, c'est le nom d'un phare, horizon pour les migrants qui prennent la mer pour atteindre l'Europe, citadelle pour les Européens. En septembre 2015, après la publication d'une photo d'un enfant syrien d'origine kurde retrouvé mort sur une plage turque, on s'est souvenu qu'on mourrait encore en voulant traverser la Méditerranée. Avant Ilan Kurdi, d'autres photos ont fait la une de nos journaux. Parmi ces souvenirs, enfouis ou vivaces, il y a ces images de corps alignés sur les quais du port de Lampedusa le 3 octobre 2013. 366 seront finalement repêchés aux abords de l'île italienne. À l'époque, c'est le pire drame en mer de ce siècle commençant. Depuis, d'autres embarcations chaviraient emportant encore plus de vies. Comment la Méditerranée est-elle devenue ainsi le passage le plus meurtrier du monde? D'où viennent ces migrants? Comment l'Europe et l'Italie les accueillent-ils ou les rejettent-ils? Pour en parler après le récit, notre invité sera Raphaël Kraft, journaliste, producteur de documentaires sur France Culture, dont celui-ci, intitulé « Passeurs, comment j'ai fait passer la frontière à des réfugiés », diffusé en septembre 2016 dans l'émission La Série Documentaire, expérience dont il a également tiré un livre intitulé « Passeur », tout simplement, édité chez Buchet-Chastel. Affaires Sensibles, une émission de France Inter, en partenariat avec l'INA, préparée par Jean Bulot avec l'appui des documentalistes de Radio France, coordination Christophe Barrère, attaché de production Valérie Priollet, programmation musicale Muriel Pérez, lecture et traduction Philippe Pierrard, réalisation David Jacobovies et Fabrice Slegle. À la technique aujourd'hui, Patrick Henry.
Fabrice Drouel, Affaires Sensibles. Sur France Inter.
Octobre 2013, en pleine mer entre Tripoli et Lampedusa. Un bateau ivre, rempli de 500 hommes, femmes et enfants, quitte les côtes libyennes avec comme pour seul bagage un peu d'eau, quelques biscuits et un GPS pour une traversée dont ils ne connaissent pas la durée. Parmi eux, il y a une jeune fille de 23 ans. Elle s'appelle Letter Bran. Son odyssée a commencé il y a un peu plus d'un an. Partie d'Érythrée avec sa meilleure amie Sénaïte pour échapper au service militaire obligatoire, elle a quitté ce pays de la Corne d'Afrique sans pouvoir dire au revoir à ses parents. À deux, elles ont pris la route vers l'Europe comme un cinquième de la population de ce petit pays. Pour l'atteindre, elles ont traversé l'Éthiopie, le Soudan, ont passé des jours à travers le Sahara sur des pick-up blindés. Elles ont connu la chaleur, le manque d'eau et parfois les abus de leurs passeurs, exploiteurs de la misère humaine. Après des mois de voyage, elles sont arrivées à Tripoli sans y voir la mer. Enfermées dans des maisons isolées, accompagnées par d'autres candidats à l'exil, elles ont attendu le grand jour. Alors, pour passer le temps, elles parlent avec les autres migrants de leur parcours et de cette vie rêvée qui les attend de l'autre côté. En attendant de prendre la mer, elles se répètent les noms des villes qu'elles doivent atteindre l'une après l'autre. Lampedusa, Ventimille, Paris, Sangatte. Au dernier jour du mois de septembre 2013, en pleine nuit, on vient enfin les chercher. Chargées dans des camions réfrigérés comme on charge des marchandises, elles font le tour de la ville, se serrant un peu plus pour laisser une place aux autres migrants que les passeurs collectent. Chacun doit payer entre 1000 et 3000 dollars pour risquer sa vie et espérer atteindre l'Europe par la mer. Dans une nuit obscure, Letter Bran et Sénaïte s'assoient l'une contre l'autre à bord d'un vieux chalutier. En quittant cette rive, ces deux filles d'Afrique prient leur dieu et la mer de les laisser passer. De l'autre côté, à 160 000 nautiques, l'île de Lampedusa agit comme un aimant. Façonné par les vagues, ce caillou de 20 km de superficie est la première terre européenne. Située entre la Tunisie et la Sicile, l'île porte le nom de la seule ville qui est sur cette île, précisément, où 6000 personnes vivent de la pêche et du tourisme. 6000 Européens en première ligne, à la frontière entre deux mondes, témoins de l'arrivée des vivants et des morts de l'autre rive. Le 3 octobre 2013, au petit matin, les damnés de la terre sont des centaines à s'échouer. parti la veille avec des amis en bateau pour profiter de la baie de Tabacarra et de son eau turquoise, Charani et Linda, deux Européennes d'Italie, sont réveillées en pleine nuit par des bruits lointains, un peu comme celui d'oiseaux en perdition. Alors elles lèvent l'ancre et prennent la mer. Après quelques minutes, elles voient des points noirs sur l'eau. C'était comme une mer de têtes, se souvient Linda. Un par un, à l'aide de leurs amis, elles récupèrent les naufragés. Ils sont souvent nus, le corps enduit de gasoil. En 2 heures, elles en sortent 47, dont une seule femme. Fuorino était également en mer. Lui aussi était réveillé cette nuit-là. Il raconte.
Je dormais dans une zone s'appelant la Tabacarra. J'attendais l'aube pour commencer à pêcher. Quand, avec des amis, on a cru entendre des hurlements et des voix. À un moment donné, on est entré dans l'eau. Et là, ce qu'on a vu était affreux. De nombreuses personnes, les bras levés, qui hurlaient. En attendant l'arrivée des secours, on a fait monter à bord de notre bateau des gens qui étaient alors épuisés d'avoir nagé. Ça faisait déjà 3 heures qu'ils étaient dans l'eau.
À bord du chalutier, tout est allé très vite. Après 47 heures de traversée, les Terbranes et Sedaït aperçoivent les premières lumières au loin, comme des lucioles. L'Europe est là, à quelques kilomètres seulement. Sans essence pour poursuivre, certains migrants allument les lumières de leur téléphone portable et espèrent ainsi être vus. Les heures passent, mais aucun signe de secours. Alors un homme met le feu à une couverture. Pris de panique, un mouvement de foule fait basculer le bateau. En quelques minutes, l'embarcation rejoint le fond, emportant avec elle ceux qui n'ont pu s'échapper, dont Sedaït. Les Terbranes, elle, a tenu la coque du bateau jusqu'au bout, puis elle a nagé des heures durant, avant qu'un bateau ne la récupère, enfin. Elle est l'une des survivantes de ce naufrage du 3 octobre 2013, aux abords de Lampedusa. Quelques heures plus tard, après les vivants, ce sont les premiers morts que l'on décharge sur le quai, puis qu'on place sur des sacs en plastique. Ils seront 366 à être repêchés ou récupérés sur les plages du Sud. Mais combien sont-ils à avoir été engloutis par la mer sans laisser de traces depuis ce jour d'octobre 2013, victimes de leurs rêves, pourtant si légitimes? Fuir une dictature, une armée, une famine. Comment Lampedusa est-elle devenue un cimetière pour les migrants et une citadelle pour les Européens?
Io mi chiamo Adiam. Io sono d'Eritrea.
Je m'appelle Adiam, je viens d'Érythrée, en Afrique. Je suis arrivée en Italie en 2003 par la mer, en barque.
Et pourquoi avez-vous quitté l'Érythrée?
Parce que notre gouvernement était une dictature et il y avait la guerre aussi, alors j'ai fui la guerre. J'ai mis beaucoup de temps pour arriver en Italie. J'ai dû traverser le Soudan, le désert, la Libye, puis la mer. Quand on est arrivé au large de la Tunisie, il y a eu une tempête. La barque a chaviré. On a crié « à l'aide, à l'aide ». On a brûlé nos t-shirts. C'était la nuit. Un bateau tunisien est arrivé et nous a sauvés. Il nous a donné une grande barque. Par chance, je ne suis pas morte, mais beaucoup d'autres, oui.
Però sei tu morto, morto.
Mort.
Basta. Finito.
C'est 10 ans avant le naufrage du 3 octobre qu'Adiam est arrivé à Lampedusa. Cette année-là, 8819 migrants ont été arrêtés aux frontières maritimes de l'île. Ces arrivées représentent déjà plus de 60% du total des migrants arrêtés sur le territoire italien. Au début de ce nouveau millénaire, les problèmes liés à l'immigration clandestine constituent en Europe une question prégnante. En Italie, en 2002, les parlementaires votent une nouvelle loi sur l'immigration dite Bossi-Fini, du nom de ses auteurs, Umberto Bossi, un ancien chef de la Ligue du Nord, et Gianfranco Fini, fondateur du parti post-fasciste Alliance Nationale. Cette loi, votée le 4 juin, durcit les conditions d'entrée des immigrés en Italie, limite le séjour dans les centres, exige la prise des empreintes digitales de tous les étrangers non originaires de l'Union européenne, accélère également les procédures d'expulsion et instaure le délit d'immigration clandestine qui interdit aux bateaux de pêche de porter secours aux migrants en détresse. À la suite de ce vote, le centre d'accueil situé à Lampedusa devient un centre de détention, où la durée maximale de séjour peut aller désormais jusqu'à 60 jours. Et chaque mois, on apprend le naufrage d'un bateau, la découverte d'un ou deux dizaines de corps sur une plage du Sud. Le 19 octobre 2003, ce sont 14 personnes qui perdent la vie à quelques kilomètres des côtes italiennes. Année après année, Lampedusa devient une sorte de laboratoire de la politique sur l'immigration dans l'Italie de Berlusconi. En octobre 2004, le gouvernement signe avec les autorités libyennes un accord de surveillance des frontières, avec fourniture de moyens matériels, mise en place de patrouilles mixtes et dispositifs d'expulsion facilités. En 2005, la politique migratoire européenne évolue également vers plus de contrôle. L'Union se munit d'une agence dénommée Frontex, qui coordonne et gère l'action des pays membres sur ses frontières extérieures. Frontex surveille, compte, fiche, décrypte les routes migratoires et devient un soutien logistique aux pays de l'Union. Désormais, à Lampedusa, les bateaux de guerre côtoient les bateaux de pêche. Au petit matin, les migrants sont des dizaines à débarquer sur le quai, une couverture de survie sur le dos avant d'être emmenés en bus vers le camp situé en dehors de la ville. Derrière ces murs, aucun journaliste n'a le droit de pénétrer. Que se passe-t-il à l'ombre des caméras ? Pour en savoir plus, en septembre 2006, Fabrizio Gatti, journaliste de l'hebdomadaire L'Espresso, se jette à l'eau à quelques centaines de mètres d'une plage de Lampedusa et se fait passer pour un migrant. Après avoir été secouru par des riverains, il est amené auprès des carabiniers qui l'envoient dans le camp. Après 6 jours enfermé dans ce centre, il est envoyé en Sicile, puis relâché avec comme seule consigne « Vous avez 6 jours pour quitter l'Italie ». Alors que ses compagnons de fortune prennent la route vers le nord, lui rentre à Rome et écrit un article intitulé « Dans l'enfer de Lampedusa », où il décrit les conditions inhumaines, les humiliations et les brimades des gardiens. Il raconte notamment comment certains gardiens contraignent des musulmans mineurs à regarder des images pornographiques, à se dénuder en public. Il pointe également les mauvaises conditions sanitaires, le surpeuplement. Durant son séjour, il n'a reçu aucune aide juridique. Cette année-là, en 2006, le journaliste de France Inter, Eric Valmire, est sur place. Il rencontre Frédérica, une bénévole de Médecins Sans Frontières, qui a accès au centre.
Moi, personnellement, j'aimerais pouvoir avoir du temps pour visiter les gens, parce qu'en fait, on n'a pas le temps pour le faire. Et les choses qui m'ont frappé, c'est les yeux des immigrés. C'est plein de peur, parce qu'ils sont vraiment ils sont effrayés. Et c'était quand même très frappant de voir des personnes baiser le sol. On dit comme ça. Et j'avais vu ça seulement une autre fois dans ma vie en Israël, il y a 15 ans. Et ça te frappe beaucoup, je trouve.
Malgré le tollé politique, la situation n'évolue pas. Pire, en 2008, le gouvernement de Berlusconi décide de ralentir les transferts et de plonger un peu plus le centre dans une situation d'urgence. En décembre, le gouvernement italien annonce que quiconque arrivera sur l'île de façon illégale sera détenu pour une durée indéterminée et que les demandes d'asile se dérouleront désormais sur place. Alors que le centre est pensé pour accueillir 351 personnes, au début du mois de janvier 2009, on en compte plus de 2000 détenus derrière des barbelés. Dans la rue désormais, les habitants manifestent contre la militarisation de leur île, qu'ils comparent à un Guantanamo des clandestins. Pour certains lampedusiens, la petite île balnéaire est devenue une prison, comme le raconte cette habitante.
C'est tout un petit village. L'impression bizarre, c'est qu'on croit d'être contrôlé par la police. On ne peut pas aller faire les courses quand on voit la police. Donc, tu as l'impression que la police est là pour te contrôler. Ce n'est pas pour l'immigration, mais c'est pour toi. Parce que c'est trop. En fait, vraiment, on ne peut pas sortir de la maison quand on voit des polices, des militaires, toujours, toujours. Même l'autre jour, on allait au restaurant et il n'y avait que 2 clients, en fait, nous et la police.
Année après année, à Lampedusa, le passage des migrants laisse des traces. Quelques mots, des vêtements abandonnés sur les plages du sud de l'île et des croix en bois dans le cimetière de la ville qui accueille les corps que la mer a bien voulu faire réapparaître. Il y a les croix blanches avec comme seule indication un numéro, puis celle dont on a retrouvé l'identité. Pour elle, les Lampedusiens offrent des sépultures avec les noms gravés sur du marbre. Dans ce carré des naufragés, les dates, les noms, les catastrophes défilent, plaque après plaque. Sur l'une d'elles, on peut lire « 16 avril 2009, le navire marchandique Pinard, en route vers la Tunisie, se porte au secours d'une embarcation en difficulté. À bord du cargo, on a transféré le corps sans vie d'Esterada, 18 ans, nigériane. Au cœur de l'île, sur un terrain vague, un autre cimetière voit le jour, celui des épaves de bateaux. Entassés les uns à côté des autres, ils sont les derniers vestiges de ces traversées. Certains sont des vieux chalutiers, d'autres des bateaux de pêche presque neufs. Tous ont des indications arabes sur la coque. En 2011, sur l'autre rive, la révolte gronde. En 4 semaines, les Tunisiens poussent au départ le président Ben Ali en poste depuis 1987. Puis c'est l'Égypte qui s'embrase. Le 11 février 2011, le président Moubarak annonce qu'il s'en va. En Libye, malgré les mobilisations, le dictateur Kadhafi refuse de quitter le pays. Il faudra attendre l'épreuve des armes et le début d'une guerre civile pour que le pouvoir cède. Dans ces pays, les passeurs poursuivent leur trafic, envoyant chaque jour un peu plus des migrants à bord de leurs bateaux miteux. Parmi eux, Haitem, jeune Tunisien de 19 ans. En 2011, au lendemain de la révolution, Alexandre Degnaud de France 2 suit son odyssée pour envoyer spécial de Zarzis jusqu'en Italie. Elle est avec lui à bord du bateau qui l'emporte.
Tu vois, après la collision, je suis tombé dans l'eau. J'ai essayé de m'agripper au bateau des gardes nationaux. Mais le capitaine a surgi de nulle part pour me frapper. Et il m'a dit, tu vas rester là, dans la mer. Tu montes pas. Mais moi, je me suis accroché et j'ai réussi à monter quand même.
Si ça marche pas cette fois-ci, tu vas recommencer encore ?
Normalement.
Mais si Dieu veut, là ça va marcher.
Après avoir passé quelques jours à Lampedusa, au centre de détention, Haitem arrive en Sicile, passe par l'Italie, puis rejoint la France. Il est l'un des 51 753 migrants recensés qui ont débarqué sur l'île italienne en 2011. Cette année-là, ce nombre représente 82% des migrants recensés dans le pays. Avec des arrivées qui constituent près de 10 fois la population de l'île, Lampedusa devient l'étape numéro 1 des routes migratoires de ces réfugiés qui cherchent à tout prix à rejoindre l'Europe. Lampedusa devient aussi une étape pour les populistes de tout genre qui font de cette île le symbole d'une Europe passoire. Le 14 mars 2011, par exemple, Marine Le Pen, alors en campagne pour la présidentielle, se rend à l'improviste sur les lieux. Accompagnée par Mario Borghezio, député européen du Parti de la Ligue du Nord, elle reste à peine 2 heures sur l'île, le temps de faire le tour des médias français, italiens, allemands.
L'Europe n'a pas la capacité d'accueillir l'ensemble de ces clandestins. Que les peuples d'Europe sont en situation telle d'appauvrissement que nous ne pouvons pas assumer, en plus d'une immigration légale qui est déjà très importante, je parle évidemment de la France, une immigration clandestine.
Quelques jours plus tard, c'est Silvio Berlusconi, président du Conseil italien, qui fait le déplacement et qui promet le départ des réfugiés vers d'autres structures dissimulées sur la péninsule. Il vient annoncer également le financement d'un plan de communication pour relancer le tourisme dans l'île. Dans les journaux, Lampedusa reste le nom d'une mauvaise conscience européenne, d'une histoire sans fin, celle des naufragés en Méditerranée où l'on apprend la mort de 10, 20, 30 réfugiés, un jour d'été ou d'automne, à quelques kilomètres de nos côtes. Mais comme une vague chasse l'autre, chaque drame fait oublier le précédent. Les naufrages deviennent alors des informations dont on ne donne que la date et le nombre de survivants, comme si on avait accepté que notre Méditerranée soit devenue fosse commune. Alors que les institutions de l'Union européenne hésitent, attendent, accentuent les contrôles et les expulsions, c'est un homme d'église, le pape François, qui rappelle l'existence de l'île et de tous ses morts en Méditerranée. En juillet 2013, pour son premier voyage, le pape débarque à Lampedusa. Dans son homilie, il demande pardon pour cette globalisation de l'indifférence.
Nous nous sommes habitués. Nous sommes habitués aux souffrances de l'autre. Cela ne nous concerne pas, ça ne nous intéresse pas. Ce n'est pas notre affaire. Revient la figure de l'innominé de Manzoni. La globalisation de l'indifférence nous rend tous innommés, responsables, sans nom et sans visage.
Quelques semaines plus tard, le 3 octobre 2013, 366 migrants périssent en mer, toujours dans l'indifférence, ou presque. Know that it's been wrong. It shows in your reflection. You've fallen out of touch. Got lost along the way. And no, it's not enough. But these things, they all get better. And even if it's tough.
Faute de place dans l'église, ils sont des centaines sur le parvis, balayé par le vent du nord, venus se recueillir à la mémoire des victimes du naufrage, comme Giovanna.
J'ai mal au cœur, moi. Et c'est pas la première fois. Il y a toujours des immigrants ici, alors. Des enfants, tout ça, ils sont morts, alors. C'est tout, ça va.
Lampedusa est restée ville morte toute la journée, drapeau en berne, écoles et commerces fermés. Max est sénégalais, ça fait 20 ans qu'il habite ici et c'est la première fois qu'il vit un tel drame.
Ceux qui sont venus ici, ce sont nos frères, nos parents, ce sont tous de l'Afrique et nous sommes des Africains. C'est pourquoi nous sommes venus avec les Italiens pour commémorer la situation.
La messe sera suivie d'une procession. Le cortège passera sur le port de pêche où l'on voit quelques drapeaux noirs avec ce mot écrit en blanc, « Vergogna, la honte ». À Lampedusa, Philippe Leduc, Sandy Dauphin, France Inter.
Ce 4 octobre 2013, à Lampedusa, au lendemain du naufrage d'une embarcation de migrants qui a provoqué la mort de 366 personnes, les Lampedusiens déplorent ces nouvelles victimes qu'ils retrouvent désormais sur les écrans de télé et dont on cache le visage et le nom. D'où viennent-elles? Quand ont-elles pris la route vers l'Europe? D'Érythrée, de Syrie, d'Éthiopie, quelle guerre se cache derrière ces vies? Pourquoi ces hommes, ces femmes, ces enfants ont-ils décidé de tenter cette traversée? Dès l'annonce du drame, l'émotion passe les frontières. Le 4 octobre 2013, le gouvernement italien décrète un jour de deuil national. Le pape François, en déplacement à Assise, accuse de nouveau le monde d'indifférence envers ses réfugiés. Des politiques du pays et de l'Union européenne, dont José Manuel Barroso, viennent saluer la mémoire des morts. Au même moment, à l'intérieur de sa petite mairie, Giusy Nicolini tient le décompte macabre des victimes que la maire lui livre chaque jour. Au lendemain de son élection en 2012, elle avait déjà alerté les autorités de Rome avec une lettre courte et sans appel. « Je suis la nouvelle maire de Lampedusa », écrit-elle. « On m'a affecté 21 cadavres de personnes qui tentaient d'atteindre l'île. Notre cimetière n'a plus de place. Nous allons l'agrandir. Mais dites-moi, quelle superficie doit-il atteindre ?» Un an plus tard, au lendemain du drame, malgré les annonces, Lampedusa retombera selon elle dans sa solitude, seule au milieu de la mer, à secourir ceux que l'Europe refuse d'accueillir.
Lampedusa sera de nouveau laissée seule demain. La grande solitude.
Lampedusa sera de nouveau laissée toute seule demain. La grande solitude de Lampedusa, c'est que même après le passage du pape François, on se rend compte que rien ne change dans les lois, les politiques d'accueil, même dans les secours portés à ces réfugiés qui ne sont pas des clandestins, des immigrés légaux. Et ce n'est pas aux forces de police d'aller les récupérer dans l'eau, vivants ou morts. Il devrait y avoir des couloirs humanitaires.
Le naufrage du 3 octobre 2013 est à l'époque le drame le plus important de ce siècle qui commence. Alors, le gouvernement italien lance une première opération de surveillance et de secours qui porte le nom de Mare Nostrum. Sur les mers, désormais, des bâtiments militaires italiens partent au secours des migrants jusqu'aux côtes libyennes. Alors que chaque jour, ils sont de plus en plus nombreux à être ramenés sur terre sains et saufs, c'est à l'intérieur du centre d'accueil que les critiques se portent de nouveau. Le 16 décembre 2013, le journal de la RAI 2 diffuse un reportage réalisé à l'aide d'images du téléphone portable de Raled, un réfugié syrien qui a filmé l'intérieur du camp. On y voit les migrants, hommes, enfants, attendre nus dans le froid avant d'être aspergés de produits désinfectants. Les membres du centre les traitent sans considération, jetant leurs affaires à terre. L'effroi est grand sur l'île, comme en Europe. Cécile Malmström, commissaire européenne aux affaires intérieures, déclare sur Twitter l'ouverture d'une enquête sur ces traitements qu'elle juge épouvantables. Et le gouvernement italien suspend les dirigeants du centre et il annonce l'évacuation du camp pour une remise à niveau ainsi qu'une révision des lois dites Fini-Bossi. Sur le plan des sauvetages, après un an d'existence et 150 000 personnes sauvées, l'opération Mare Nostrum est arrêtée. À partir du 1er novembre 2014, l'Europe prend la relève avec l'opération Triton. Malgré une coordination européenne sous la houlette de Frontex, le budget de l'opération passe de 9 millions par mois à 3 millions. À l'inverse de l'initiative italienne, Triton n'est pas une opération de sauvetage, non, mais de surveillance sur l'ensemble des eaux territoriales européennes. Quelques mois plus tard, le 19 avril 2015, un nouveau drame fait la une des médias du monde.
Inter. Nouvelle tragédie en Méditerranée selon un scénario qui se répète. Un chalutier de 20 mètres de long avec à son bord plus de 700 migrants alors qu'il ne pouvait accueillir qu'une centaine de passagers a fait naufrage à 110 km des côtes libyennes. Dans la nuit, les migrants lancent un appel de détresse suite à des difficultés de navigation. Les gardes-côtes italiens déroutent sur la zone un navire marchand portugais. En le voyant arriver, les migrants se portent tous du même côté de l'embarcation, la faisant chavirer. 28 personnes ont été secourues pour l'instant et d'autres navires ont été dépêchés sur place pour trouver des survivants. Si le nombre de 700 victimes était avéré, cela porterait le bilan des morts en Méditerranée à 1600 depuis le début de l'année, alors qu'il était de 47 victimes à la même époque en 2014. Hausse également du nombre de migrants à accueillir pour l'Italie depuis le début du mois d'avril. 15 000 nouvelles personnes, dont de nombreux enfants, sont arrivées dans la péninsule. Le HCR demande désormais la mise en place d'un Mare Nostrum européen.
4 jours plus tard, le Conseil européen annonce que l'Union européenne mettra tout en œuvre pour éviter de nouvelles pertes de vies humaines en mer. Pour cela, elle lance une opération militaire pour lutter contre les passeurs et les trafiquants humains. Encore une fois, son objectif n'est pas le sauvetage, mais la surveillance et la lutte contre le trafic. Après chaque drame, certes, Bruxelles s'émeut, puis hésite, tâtonne, modifie les lois, espère toujours faire de la Méditerranée un mur étanche. Alors, dès la fin de l'année 2014, ce sont les ONG qui prennent le relais des sauvetages en mer, comme autant des boat people vietnamiens. Le drame est désormais à quelques centaines de kilomètres de nos plages. Des médecins et des bénévoles partent en mer secourir ces migrants. À Lampedusa, les habitants poursuivent leur vie d'accueil et de deuil. Parmi eux, ce médecin filmé dans le bouleversant documentaire intitulé « Fu Okohamare » par-delà Lampedusa de Gianfranco Rossi, ours d'or au dernier festival de Berlin et qui sortira en septembre 2016. Devant un écran d'ordinateur, il montre les photos d'un bateau de réfugiés, puis d'un adolescent allongé, rachitique. Il raconte les traces de la traversée sur les corps meurtris, les brûlures dues au mélange d'eau et d'essence, la déshydratation et l'étouffement. Avec retenue, il parle des vivants et se souvient des morts de Lampedusa.
Tout homme a le devoir, s'il est un être humain, de secourir ces personnes. Quand nous y parvenons, nous en sommes vraiment heureux. Heureux d'avoir pu les aider. C'est parfois impossible, hélas. Je dois parfois assister à des choses épouvantables, des morts, des enfants. Quand cela arrive, je suis obligé de le faire. Ce que je déteste le plus, l'inspection de cadavres. J'en ai fait beaucoup, sans doute trop. Beaucoup d'amis ou de collègues me disent « Tu en as tellement vu, tu es habitué. » C'est faux. Comment peut-on s'habituer à voir des enfants morts, des femmes enceintes, des femmes qui ont accouché sur des canots en perdition, l'enfant encore attaché par le cordon ombilical? Tout ça te laisse une colère, un vide dans l'estomac, un trou. Tu penses, tu rêves d'eux, je fais des cauchemars où je revis souvent. Souvent.
Aujourd'hui encore, de l'autre côté de la rive, des migrants prennent la route de l'Europe, quittent leur pays, traversent des déserts, attendent dans des maisons des jours entiers, puis tentent leur chance par la mer. Combien survivront à la prochaine traversée? Combien de bateaux coulent sans même qu'on ne le sache?
How many people? How many people?
150!
Your position.
Please, you beg, please, as ever.
Your position.
In the name of God.
Your position. Hello? Hello?
En 2014, encore 5 500 000 personnes ont fui leur maison, forcées de se réfugier dans des villes, des pays, loin de chez eux. Sans aucune idée du moment où ils pourraient retrouver leurs existences habituelles. 5 500 000 personnes ont fui leur maison, forcées de se réfugier.
Affaires sensibles, Fabrice Drouel.
Aujourd'hui, Lampedusa et les migrants. Lors de la première diffusion de ce récit, le 23 juin 2016, nous avions reçu le grand reporter Jean-Paul Marie, qui a vécu pendant 21 jours à bord de l'Aquarius, le bateau de SOS Méditerranée qui porte secours aux embarcations de migrants. Eh bien, aujourd'hui, nous recevons un autre reporter qui lui aussi s'est investi dans cette histoire jusqu'à en devenir acteur. Il s'appelle Raphaël Kraft. Bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous aujourd'hui. Les fidèles de la Maison Ronde vous connaissent bien puisque vous produisez des documentaires radio pour France Culture, dont celui-ci, Passeur, comment j'ai fait passer la frontière à des réfugiés, bah tout est dit, hein, diffusé en septembre 2016 dans l'émission de la série documentaire Expérience, dont vous avez également tiré un livre qui lui s'appelle Passeur, édité chez Bûcher Chastel. C'est tout récent, sorti en février, c'est ça?
19 janvier.
Ouais. 19 janvier, donc c'est tout récent. Dans la première partie de l'émission, nous sommes revenus sur l'histoire de Lampedusa, l'une des portes de l'Europe pour ses migrants. Après cette étape, il y a parfois, même souvent, Ventimiglia, c'est une ville au l'extrême nord-ouest de l'Italie et qui fait la frontière avec la ville française de Menton. Eh bien, c'est là que vous décidez d'aller en septembre 2015 pour enquêter, écouter la parole de ces réfugiés bloqués entre la France et l'Italie. En arrivant à Ventimiglia, qu'est-ce que vous découvrez déjà d'emblée?
Je découvre une situation qui est assez semblable à celle de Calais, puisque la frontière française est fermée en septembre 2015. Elle est fermée depuis juin 2015. Il y a eu au printemps 2015 à Paris beaucoup d'évacuations de camps. Beaucoup de camps et de formations de camps, d'évacuations de camps. La jungle de Calais, ce qu'on appelle la jungle de Calais, a de plus en plus de personnes. Et donc il y a une volonté du gouvernement français de limiter ce qu'il qualifie de flux de réfugiés passant en France ou voulant s'installer en France, mais pour un certain nombre voulant aller en Angleterre, en Allemagne ou en Scandinavie. Et donc il y a cette décision de vouloir fermer la frontière, comme ce fut le cas en 2011, lorsque les Tunisiens sont arrivés après la chute du gouvernement de Ben Ali, ou pendant la chute du gouvernement de Ben Ali. Et donc ces réfugiés se retrouvent face à la chaîne des Alpes, difficile à traverser, et à Menton, à Sospel, au col de Tende, la frontière est fermée avec plus ou moins de célérité. Menton, elle est surveillée H24, Sospel c'est un petit peu 6 heures, 8 heures par jour, et Tende aussi. Voilà,
Sospel c'est déjà en montagne, au nord de Menton. Hein,
oui, voilà, c'est ça.
Alors, il y a les migrants et les hommes et femmes d'Europe qui leur viennent en aide, comme à Lampedusa. Dans votre livre, vous parlez d'Hubert, le français des Gorges du Loup, d'Enzo, l'italien, et d'une avocate spécialiste des droits de l'homme qui, elle, faisait l'aller-retour Ventimiglia-Calais dans le week-end. Comment aident-ils ces réfugiés? Quel est leur état d'esprit à ces gens-là?
Je crois que c'est un état d'esprit qui n'est pas différent de ces personnes qui sont au contact quotidien, direct avec les réfugiés, que ce soit à Calais, que ce soit dans le quartier de la Chapelle à Paris, ou à la frontière italienne, ou à Lampedusa, comme on a pu l'entendre dans la première partie de cette émission. C'est-à-dire qu'ils sont confrontés journellement à, je ne vais pas parler de misère, parce que ces personnes qui arrivent sont des gens qui ont eu un foyer, un travail, souvent issus de la classe moyenne.
Misère morale.
Voilà, en tout cas ce sont des gens qui ont traversé des moments, qui ont fait un voyage extrêmement difficile, qui sont atteints par l'exil. C'est extrêmement difficile d'avoir dû quitter parfois sa famille, son foyer.
Bien sûr.
Et lorsque vous avez quelqu'un en bas de chez vous qui n'a pas de toit ou qui a besoin d'avancer, d'aller plus loin dans son voyage, eh bien ces gens les aident. Pas forcément dans une logique militante, mais davantage...
Humaine, simplement?
Oui, humaine, même pas humanitaire, humaine. Mmh. Et donc Hubert, pour parler de ce Français des Gorges du Loup, Hubert Jourdan, pour le nommer, c'est quelqu'un qui, depuis juin 2015, accueille les réfugiés à son domicile, avant qu'ils ne poursuivent leur voyage, pour qu'ils puissent souffler, manger, se reposer, se détendre. Et je suis passé le voir il y a quelques jours là, et il m'annonçait un chiffre d'un millier de réfugiés passés par chez lui. Alors c'est une maison perdue dans les Gorges du Loup, avec plusieurs dépendances qu'il louait auparavant, et puis qu'il a décidé d'arrêter de louer puisqu'il faut loger du monde. Et donc il n'est pas rare de voir 20-30 réfugiés chez lui. Et puis Hubert, c'est quelqu'un qui a fait la route dans les années 70, qui est allé en Afghanistan, qui a passé plus d'un an en Inde, qui ensuite a été guide au Pakistan, qui ensuite s'est engagé dans l'humanitaire, en Afghanistan à nouveau, c'est un amoureux de l'Afghanistan, en Haïti aussi. Et donc c'est quelqu'un qui a un rapport tout à fait naturel avec l'altérité et avec ces jeunes. Et certains d'entre eux passent plusieurs mois, plusieurs semaines, parfois plusieurs mois chez lui parce qu'ils s'y sentent bien et parce qu'il y a des amitiés qui se nouent entre lui et certains jeunes.
Alors, au sein de votre parcours radiophonique et professionnel, avant ce reportage sur la frontière entre la France et l'Italie, il y a eu pour vous Gaza, Ramallah, Bagdad, Kaboul, des zones de fracture, comme vous les appelez. La frontière franco-italienne, c'est devenu une zone de fracture. Toute comparaison est oui, évidemment à relativiser, hein, on est bien d'accord.
Oui, alors attention, il y a des morts. Hein,
c'est pour ça que je dis ça.
Il y a des morts à la frontière franco-italienne, 8 depuis juin 2015. La plupart du temps, ce sont des personnes qui se font écraser dans les tunnels qui relient de l'autoroute qui relie la France à l'Italie. D'autres se font électrocuter lorsqu'ils essayent de passer sur le toit des trains, tombent des viaducs, se font écraser par des scooters, parce qu'aujourd'hui le camp de la Croix-Rouge du côté italien a été relégué à la périphérie de la ville, et donc les réfugiés, lorsqu'ils veulent passer en France, ils sont obligés de marcher la nuit sur le bas-côté d'une route, et ça provoque des dangers. Mais non, on peut pas parler de la même zone de fracture telle qu'on peut la voir à Lampedusa ou en Libye, ou bien sûr à Gaza où j'ai pu vivre, ou à Bagdad. Mais ces jeunes gens, parce qu'ils sont jeunes pour la plupart, sont confrontés à un mur, et ce mur, ils ont envie de le passer, et dès qu'on érige un mur, et depuis que le monde est monde, eh bien on a envie de le contourner, et en le contournant, plus il est grand ce mur, eh bien plus il est difficile de le passer et plus il est dangereux.
Et si on veut continuer la métaphore, c'est quand même pour ces gens-là une zone de fracture dans leur vie, en tout cas, évidemment.
Oui, alors c'est très difficile lorsqu'on a vécu, prenons l'exemple de mes deux amis Ibrahim et Ahmad.
On allait en parler, absolument.
Dont on parlera certainement. C'est d'autant plus difficile que lorsqu'ils quittent le Darfour, qui est en guerre civile, qu'ils arrivent à Khartoum dans une situation difficile parce qu'ils sont en bisbille avec le régime d'Omar el-Béchir. Ensuite, ils traversent le désert de Libye. Ils arrivent dans un pays où il n'est pas exagéré de parler de mise en esclavage des réfugiés et des migrants.
Oui, on s'y arrêtera, parce que c'est important.
Ils traversent la Méditerranée et ils s'attendent, lorsqu'ils arrivent en Europe, à être traités de façon digne. Alors, bien sûr, ce qui se passe en France, en Italie, ce n'est pas la Libye, ce n'est pas... Mais ils ne s'attendent pas à être confrontés à parfois à la matraque des policiers, à être confrontés aux nuits dehors, aux nuits sous les ponts, dans le froid et sous la pluie.
Quel est leur espoir exactement? Parce qu'ils savaient déjà avant de partir que ça serait pas facile, y compris dans les pays occidentaux. Mais quel est l'état de leur espoir? Dans quel état d'esprit ils arrivent exactement?
Je ne sais pas si on peut parler d'espoir. Enfin, je crois qu'il faut d'abord parler d'un désespoir et de la fuite d'un désespoir. Moi, la plupart des réfugiés, et je les compte par dizaines, sinon par centaines, que j'ai rencontrés depuis que je fais du journalisme, du reportage, ce sont d'abord des gens en exil, c'est-à-dire des gens qui ont été contraints de partir, donc qui l'ont dans leur chair et qui n'ont pour souhait, pour la plupart d'entre eux, pour un certain nombre d'entre eux, de revenir dans leur pays pour retrouver leurs proches, pour retrouver leur foyer, leurs habitudes, leur culture, la bouffe, que sais-je. Après, en ce qui concerne mes deux camarades Ibrahim et Ahmad, il y a l'espoir de... Pour ce qui les concerne, parce qu'ils ont appris la France à l'école, la France de la Révolution française, de la Déclaration universelle des droits de l'homme, des valeurs. L'espoir, c'est de voir en vrai ce qu'ils ont appris à l'école. Il faut savoir qu'il y a des milliards d'adolescents, d'enfants qui ont appris la Révolution française, et qu'aujourd'hui, lorsqu'ils arrivent en France, ils sont un peu déçus. Ce fut le cas d'Ibrahim et d'Ahmad lorsqu'ils sont arrivés en France. Ils avaient soif d'étudier, ils avaient soif d'avancer dans leur vie, et ça n'est pas aussi facile qu'ils le pensaient.
Alors, on va écouter Ibrahim, l'un de ces deux Soudanais. Il s'agit bien sûr d'un extrait de votre documentaire diffusé en octobre 2016 au sein de l'émission La Série Documentaire de France Culture. Et Ibrahim revient évidemment sur sa situation à Ventimiglia.
Concrètement, vous arrivez le premier jour, vous ne pouvez trouver nulle part où dormir, parce que vous ne connaissez personne, vous n'avez pas d'adresse où trouver refuge. Le premier jour, vous dormez à la rue. Ensuite, vous cherchez le camp humanitaire quand il y en a un. Le plus important pour nous, c'est de trouver un toit. La nourriture n'est pas la chose la plus importante. On se contente de manger sur le pouce, des biscuits, de l'eau, ça nous suffit. Ce qui nous importe, c'est un endroit où dormir. C'est ça le plus important. Ici à Vintimille, on a accès à ce camp de la Croix-Rouge. Ils sont vraiment bons avec nous. Ils nous accueillent, nous offrent un lit avec des couvertures, trois repas par jour. C'est bien.
Voilà, personne ne peut mieux parler du sort d'Ibrahim qu'Ibrahim lui-même, évidemment. Et pour vous, il y a un moment de bascule. Voilà, c'est-à-dire que vous êtes journaliste, vous vous intéressez au sort de ces gens dans une logique d'information. Et puis à un moment, vous les aidez. Qu'est-ce qui se passe intimement? C'est quoi la bascule?
C'est le samedi 3 octobre à la gare de Vintimille, après des mois à couvrir cet événement, après avoir couvert la révolution libyenne en m'intéressant essentiellement aux réfugiés subsahariens qui se trouvaient là-bas dans une situation terrible. Donc c'est sensible au destin et au sort de ces personnes que je suis en reportage, dans un environnement intellectuel particulier, puisque bon, je vous parlais d'Hubert, je dors chez lui, il me loge lorsque je suis en France. En Italie, je suis chez un vieux membre actif du Parti communiste italien, un peu embourgeoisé, c'est vrai, Enzo Barnaba, spécialiste de la frontière, historien de l'immigration. Et ce samedi 3 octobre, je suis en compagnie d'une avocate dont vous avez parlé, qui effectivement, chaque samedi et chaque dimanche, sur ses propres données, vient conseiller les réfugiés à Vintimille et à Calais. Et elle s'intéresse elle répond aux questions d'une famille kurde qu'elle tente de convaincre de ne pas aller en Angleterre, c'est-à-dire de ne pas aller à Calais, puisque cette famille kurde dort sur le perron de la gare de Vintimille avec deux enfants en bas âge, deux jeunes filles d'un et deux ans. Et elle ne les voit pas s'installer dans la fange de la jungle de Calais et les incite à demander l'asile en France. Et ce dernier dit très bien, finalement, après des palabres et des heures de négociation, dit d'accord, je vais aller demander l'asile à la préfecture de Nice. Aussi demande-t-il à l'avocate, ben, emmenez-moi à la préfecture de Nice pour que je formule ma demande d'asile pour moi et les miens. Et là, l'avocate lui dit, ben non, la frontière est fermée, donc vous ne pouvez pas demander l'asile. Enfin, en tous les cas, moi, je ne peux pas vous emmener. Et aussitôt, il se tourne vers moi, puisqu'il a vu que j'étais arrivé en automobile. Et il me dit, toi, j'ai vu que tu avais une voiture, est-ce que tu peux nous emmener? Voilà, que fait-on lorsque un père de famille, que j'avais vu depuis plusieurs jours, monter la garde autour des siens, tel un chef de meute, un loup, en proie aux passeurs, en proie au froid. Et qu'est-ce que... Alors je me réfugie, voilà, techniquement, je peux pas. Techniquement, je peux pas parce que j'ai qu'une voiture et passer à Menton, c'est pas possible. Passer à Sospel, ce serait mieux d'avoir deux voitures. Donc j'appelle Hubert pour qu'il se charge de trouver quelqu'un, de les faire passer. Et j'ai un cas de conscience à ce moment-là. Je me dis, mais comment ai-je pu manquer de courage? Comment ai-je pu manquer question d'honneur? Je sais pas. Et au même instant, il y a cet Ibrahim qu'on vient d'entendre, qui est à la coule sur la rambarde du perron de la gare de Vintimille et qui nous écoute depuis tout l'après-midi. Et par des échanges de regards, quelques paroles également échangées, il y a peut-être une amitié naissante qui se noue, comme ça peut arriver à quiconque dans une queue de supermarché, ou sais-je encore. Et il me dit qu'il a envie de témoigner. J'ai passé la journée dans cette gare à écouter des récits plus horribles les uns que les autres, et j'hésite à sortir de mon micro pour finalement l'enregistrer. Et je sais pas, on s'entend bien. Et surtout, il a envie d'aller en France. Et c'est tellement rare chez les réfugiés aujourd'hui d'aller en France, parce que la France dégage une image aujourd'hui qui n'est plus celle qu'elle dégageait auparavant. Ça n'est pas un pays dynamique aux yeux des réfugiés. C'est-à-dire que le migrant, le réfugié, lorsqu'il cherche un endroit où trouver l'asile, il réfléchit d'abord non pas aux questions sociales, de droits, de subventions ou que sais-je encore, mais davantage sur le dynamisme d'un pays. Et Ibrahim veut aller en France. Me touche.
Ça vous touche. Et là, vous l'emmenez avec l'un de ses amis, Ahmad, c'est ça?
Ahmad, oui.
Et vous passez par la montagne.
Oui, alors je m'entretiens d'abord avec Enzo, qui cet Italien dont je parlais, qui a 75 ans, qui a vu le monde depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, pour lui demander son avis. Et oui, je les emmène par la montagne parce que je sais qu'il n'y aura aucun risque d'être arrêté par la police française. Et je ne veux aucun risque pour eux parce qu'ils ont déjà été refoulés par deux fois par la police française. Et ce, malgré des demandes orales d'Ibrahim en anglais à des policiers français de dire « mais je veux aller en France, je veux demander l'asile », lesquels font mine de ne pas le comprendre et le refoulent vers l'Italie. C'est extrêmement difficile, vous savez, vous passez la frontière et puis la police française attend le soir afin qu'il soit trop tard lorsque vous rentrez à la gare de Vintimille pour dormir dans le camp de la Croix-Rouge puisque les portes ferment à 22h. Mmh. Donc ça veut dire que si on manque son passage, on va encore dormir la nuit. Et donc je les fais passer effectivement par le col de Fenestre à près de 2500 mètres d'altitude, plus au nord.
Dans ça dure combien de temps?
Oh, c'est 6 heures d'ascension, 3 heures de descente.
Bon. Je vous ai bousculé un peu, je suis désolé, mais je voudrais qu'on écoute Ibrahim, qui vous a raconté les anciennes étapes de son exil, notamment en Libye. Hein. Vous avez dit qu'on reviendrait là-dessus. Il s'agit de nouveau, bien sûr, d'un extrait de votre documentaire Passeur, diffusé sur France Culture.
En Libye, nous avons vu des choses que nous n'oublierons jamais. Avant de nous mettre sur un bateau pour traverser la mer, les gens étaient battus, la nourriture infecte, le logement inqualifiable. Tu avais beau payer pour tout ça, tu étais quand même très maltraité.
Ils vous appelaient Abid ?
Ce mot, tu l'entends à tout bout de champ.
Ça veut dire quoi, Abid ?
Abid veut dire esclave. Toutes les personnes noires de peau en Libye n'arrêtent pas d'entendre ce mot. Même si tu te lis d'amitié avec l'un d'entre eux.
Even if you became friend with them or anything.
Mais le pire, c'est les Érythréens qui le vivent.
And the way they, you know, bring them.
D'Érythrée, ils passent par le Soudan.
You know,
ensuite, ils traversent le désert du Sahara jusqu'au sud de la Libye.
Cross a Sahara to Libya.
Jusqu'à une oasis qu'on appelle Sabha.
City called Sabha. From Sabha.
De Sabha.
You know how they bring them.
Tu sais comment ils les emmènent à Tripoli?
Non.
On the
Comment pourrais-je dire ça? Tu sais, les gros camions qui transportent de l'essence, ils les mettent dedans.
Vraiment?
Dans les citernes. Après que la citerne a été vidée de son fuel et de son essence, il
n'y
a pas du tout d'oxygène à l'intérieur. Ils en mettent une centaine là-dedans. Ou 80, 70. À peu près ce nombre-là. Et puis ils ferment la citerne pour les emmener de Sabha à Tripoli. À Ben Walid, exactement. Un peu avant Tripoli. Ils ont une ferme là-bas.
Ah, ça montre qu'il y a plusieurs sortes de passeurs. Il y a les passeurs humains et puis il y a les criminels, les exploiteurs de misère humaine, notamment en Libye.
Oui, je crois que il y a aussi, je pense aux contrebandiers basques qui ont fait passer des juifs pendant la guerre. Il y a aussi des passeurs professionnels et consciencieux, je dirais.
Oui, oui. Alors, en septembre, donc, vous passez la frontière avec ces deux personnes, ces deux Soudanais. Que se passe-t-il après ?
Que se passe-t-il après ?
Pour eux.
Eh bien, ils vivent à la maison pendant plusieurs semaines avec un réfugié iranien qui devait être de la partie, lequel a finalement réussi à passer tout seul. Et ensuite, j'attends la promulgation de la nouvelle loi sur les demandeurs d'asile qui leur permet de travailler lors de leur demande d'asile pour les envoyer dans l'ouest de la France. Parce que là-bas, les préfectures sont moins engorgées, les fonctionnaires préfectoraux sont moins soumis à la pression, et ils vont chez un ami d'abord, et ensuite ils s'installent dans un squat, puisque le dispositif d'accueil en France est engorgé, et ils obtiennent l'un et l'autre la protection de la France.
Et aujourd'hui, que font-ils ? Il ne nous reste 15 secondes, c'est pour ça que j'arrive à aujourd'hui.
L'un est réfugié, l'autre a la protection subsidiaire.
Ouais.
Ils apprennent le français pour l'un, l'autre a de la formation professionnelle et apprend le français. Je ne vais pas dire que c'est rose, hein. C'est difficile ce qu'ils vivent. Mmh. Notamment pour Ibrahim qui pense beaucoup à son pays, qui pense beaucoup à sa famille et à sa mère notamment.
Merci infiniment Raphaël Kraft et je rappelle le titre de votre livre, Passeur, sorti en janvier, donc on le trouve dans toutes les librairies, hein, sans problème, chez Buchet-Chastel. Merci.
Merci.
C'était Affaires Sensibles aujourd'hui, Lampedusa et le drame des migrants, une émission que vous pouvez réécouter en podcast sur franceinter.fr. Rendez-vous également sur la page Facebook d'Affaires Sensibles. Demain, nous évoquerons l'affaire dite du Grelet. C'est un fait divers.